D'abord, bonsoir. Vous savez que la définition de la philosophie, c'est d'essayer de trouver un système qui puisse gérer la compréhension que l'homme a de ses droits, de ses devoirs, de sa mission, de son existence. Une vue sur le monde qui puisse être cohérente s'appelle une philosophie. Vous savez que l'histoire de Hanouka, c'est l'opposition entre la philosophie grecque et la philosophie juive, entre l'idée de la mission de l'homme d'après le judaïsme et la philosophie grecque. Donc je ne pense pas qu'on soit très éloigné du sujet si on essaye de parler un petit peu de Hanouka et d'essayer de voir comment est-ce que la Torah considère mission s'il y a, la mission de l'homme, en tout cas ses droits, ses devoirs. Et on va essayer de voir dans quel système la Torah a trouvé notre place, et peut-être aussi quelle est la portée d'autres systèmes, ceux qui sont en opposition à celui de la Torah. Vous savez que nous disons tous les jours dans le Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ve'ahavta et Hashem Elokecha veut dire, si on traduit, Ve'ahavta, tu aimeras, et Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu. C'est très difficile de comprendre que veut dire le mot Ahava, amour, pour un être que je ne connais pas, que je suppose au-dessus des sentiments, qui n'a que faire du sentiment que je lui porte, dont je ne sais pas exactement ce qu'il demande. Et si on me dit « Ve'ahavta et Hashem Elokecha » tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a créé, c'est que je suis obligé de poser qu'il peut recevoir cet amour. Recevoir cet amour, ça veut dire au moins que l'amour que je lui porterai concorde avec ce qu'il m'a demandé. C'est donc qu'il m'a demandé quelque chose. Ve'ahavta et Hashem Elokecha présuppose donc le fait que la Torah a été donnée à l'homme, que je puisse comprendre qu'il existe une volonté de Dieu sur la terre. Vous savez que l'idée de création, l'idée de sens des choses, de sens de la vie, de sens de l'expérience, c'est l'idée primordiale du judaïsme. C'est l'idée de création. Lorsque la Torah a été donnée, et que l'on me dit « Ve'ahavta et Hashem Elokecha », la première chose à laquelle je me dois de penser, c'est que qui dit « Ahava », amour, dit aussi « sens d'une volonté ». Je ne peux aimer quelqu'un que s'il a entre parenthèses ou des besoins ou des désirs. Donc ça, c'est la première chose que la Torah pose, c'est que Dieu a créé le ciel et la terre et qu'il m'a fait part de sa volonté. Et on va voir que veut dire aimer HaKadosh Baruch Hu. Si vous ouvrez Maïmonide, le Rambam, Ilchot Teshuvah dans le 10e Perek, le Rambam me dit ceci, V'keitzadi ahava aruya, motamo, comment doit être l'amour adéquat que l'homme doit porter à HaKadosh Baruch Hu. Keitzadi ahava aruya. Il dit le Rambam, Ve'u sheyeav et Hashem ahava gdola aza. Un homme doit porter un grand amour à Kadosh Baruch Hu. Gadol, quelque chose de grand, aza fort. Ve'nimtza shogeba tamid. Il se trouvera donc penser. Se trouver à l'intérieur de cet amour, tamid toujours. Que il ou cholé, comme cet homme malade, shendato pnuya me'ahavat otaisha. Chacun a déjà vu dans sa vie un homme qui est malade d'amour pour une femme et dont il ne peut pas, endato pnuya, c'est-à-dire, il ne peut pas désintéresser sa raison. Il ne peut pas s'extraire de cette chose-là. Nous voyons donc maintenant la définition de la ahava, de l'amour que l'homme doit porter à Kadosh Baruch Hu. Ahava veut dire nimtza shogeba tamid, être préoccupé par le désir de l'autre, être préoccupé par l'existence de l'autre. Tamid, toujours. Et le Rambam dit, c'est ce que l'on trouve dans le Shir HaShirim, qui cholata avani. Et il dit, tout le Shir HaShirim est plein de ça. Shir HaShirim, c'est le cantique des cantiques. On a donc une espèce de définition. Donc nous dit le Rambam, qu'est-ce que ça veut dire, ve'avta tu aimeras? C'est un concept qui est vide de sens pour nous. Dit le Rambam, non. Et mais ça veut dire, nimtsa shoge ba tamid. Un homme doit être préoccupé de ce qu'il a à faire, de ce qu'on lui demande, de ce que HaKadosh Baruch Hu veut de lui tamid, toujours. Où est-ce que tu as vu que ça a un rapport avec le mot Ahava, amour? Il dit, la définition de quelqu'un qui aime un autre, c'est qu'il est automatiquement et toujours à l'écoute de ses besoins ou de ses désirs. Ça, c'est ce qu'on appelle Ahava. Jusqu'où ça doit aller, tout le monde connaît le chemin. Ve'avta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol me'odecha. De toute ta personne, de tout ton pouvoir. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on doit comprendre. Ahava, ça veut dire nimtsa shoge batamid. Quelqu'un est préoccupé par le désir d'Akadosh Baruch Hu tout le temps. On va essayer de le traduire dans la vie de tous les jours pour nous. Tout ce qui m'arrive, chaque expérience est pour moi une occasion d'essayer de savoir qu'est-ce que le bon Dieu me veut. Ça s'appelle Ahavat Hashem. Tamid, toujours. Chaque instant de ma vie a un sens qui a été donné par le bon Dieu. C'est ça, la notion de création. Et je peux l'utiliser, je peux l'employer à faire cette volonté qui a présupposé mon existence et toute la création entière. Si je colle à cette volonté, tamid, toujours, nimtsa shogeba tamid, alors je m'appelle Ohev, j'aime Akadosh Baruch Hu. Donc on a déjà une espèce de définition de qu'est-ce que c'est que le sens de la vie de l'homme. C'est qu'à chaque instant, tamid, à chaque instant de sa vie, il lui est proposé des choix par lesquels il peut essayer de comprendre la volonté de Dieu dans la création et le sens de sa propre existence. Avec ça, on va essayer de comprendre quelque chose qui va encore un peu plus loin. Le Ramban, Nachmanide, dit la différence entre la philosophie grecque, Socrate, et le judaïsme. Il donne deux définitions. Il dit la première définition, il faut savoir que Socrate est quelqu'un qui a été exécuté. Avant d'être exécuté, au moment où on est venu pour l'exécuter, il était, dit le Ramban, Asuk Bechorma. C'est-à-dire, il était occupé, préoccupé à résoudre des problèmes philosophiques. Donc voilà un homme, nettement au-dessus de la moyenne, nettement au-dessus de ce qui est naturel, des préoccupations bassement matérielles, qui au moment où on va lui enlever la vie, est préoccupé par des problèmes dont on pourrait dire que leur valeur est tellement haute qu'il ne pense pas du tout à sa propre existence. Ça, c'est celui qui est arrivé au summum de la philosophie grecque. Deuxième chose du Rambam, on lui a demandé, est-ce que tu ne voudrais pas supplier qu'on t'accorde une grâce? Peut-être que ça va marcher. À ce moment-là, Socrate a dit non, pas du tout. La vie telle que je la vivrai ou que je ne la vivrai pas, elle ne me dérange pas. Il est au-dessus de cela. Et non seulement il est au-dessus de cela, mais il a dit une phrase qui est, d'après le Ramban, il dit qu'il n'y a aucune peine dans la vie qui vaut la peine que l'on pleure pour elle. Il est au-dessus de tout. Ça, c'est Socrate. Encore une fois, il n'y a aucune peine dans la vie qui vaut la peine que l'on pleure pour elle. Et sûrement pas la mort. Et sûrement, ça ne vaut pas la peine de s'abaisser à des choses bassement matérielles qui sont la vie et la mort. Ça, c'était Socrate. Seulement, les Sfarim nous font remarquer que peut-être les grands sages du judaïsme n'étaient même pas à cette madrigal-là, n'étaient pas à ce degré-là. Parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu a supplié à Kadosh Baruch Hu de lui accorder la vie, de ne pas le faire mourir. On sait que Yaakov Avinu, lorsqu'il a dû fuir la maison de son père Yitzhak et qu'il est allé chez Lavan, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Venatani lechem lechol ubeged lilvosh veshavti veshalom el betavi. Il a demandé des choses bassement matérielles. Lechem lechol, donne-moi du pain à manger. Beged lilvosh, donne-moi un habit pour me vêtir. Veshavti veshalom el betavi, je veux retourner en paix dans la maison de mon père. Voilà ce qu'a demandé Yaakov Avinu. Si vous comparez ça à Socrate, c'est faible. Et là, on ne comprend plus. Là, on va peut-être voir la différence qui existe entre les deux civilisations. Si le monde a été créé de telle façon que le bonheur pour un homme, la vie pour l'homme consiste à avoir un support qui s'appelle l'echem l'echol ou begel ilbosh, le pain à manger et la vie pour se vêtir, c'est que ça a un sens. Si ça a un sens, je veux cette vie-là. D'être au-dessus de la vie, c'est de ne pas savoir donner un sens à la vie. D'être au-dessus de la vie, c'est de ne pas envisager que les choses ont été créées dans un but. Celui qui méprise le matériel au point de ne pas tenir à la vie, c'est qu'il ne tient pas à la création, ou alors qu'il n'est pas allé au fond de l'idée de création. Parce que si Dieu m'a créé, ça a un sens, c'est pour quelque chose. Et je peux être le plus grand philosophe, l'homme le plus détaché des choses matérielles, je suis obligé de les utiliser dans un certain but. Si je n'y arrive pas, c'est que je n'ai pas compris le sens de la création. On voit donc qu'il existe une différence fondamentale entre la philosophie du judaïsme et la philosophie grecque. Pour le grec, même l'homme qui aurait maîtrisé tous ses besoins, tous ses désirs, n'arrivera pas à donner un sens aux choses. Il n'arrivera qu'à se séparer des choses. Et tout ce qu'il appréciera dans sa vie lui procurera un plaisir, et il sera un homme véritablement lorsqu'il sera maître de ce plaisir-là. Il le prendra quand il le voudra, au moment où il le voudra, avec qui il voudra. Ça, c'est le summum de la civilisation grecque. Le judaïsme, c'est autre chose. C'est que lorsque l'on annonce à Moshe Rabbeinu qu'il n'arrivera pas, qu'il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël et qu'il va mourir, va être Hanan el Hashem, va être Haïl est mort. Alors il se met à plat ventre devant Kadosh Baruch Hu, il le supplie. Il y a un sens aux choses. Je veux participer à quelque chose. Je ne suis pas un être à part. Là, on peut essayer déjà de toucher du doigt une des différences. On va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Il y a une Gemara qu'on a déjà cité à propos d'autre chose. C'était, je crois, à propos du mariage. Dans le traité de Nedarim et dans le traité de Nazir au commencement. La Gemara raconte ceci. Amar Rabbi Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik était Kohen Gadol, il était grand prêtre au temple à Yerushalayim. Miyama elo achalti, me'asha nazir tamé. De ma vie, je n'ai mangé, puisque vous savez que les Kohanim, ceux qui sont au temple, mangeaient une partie des sacrifices. Miyama elo achalti, me'asha nazir tamé. Je n'ai jamais mangé du sacrifice du nazir impur. À part une fois, un jour est venu un homme qui était nazir. Vous savez ce que c'est que le nazir ? Nazir, c'est celui qui a fait le vœu de ne pas boire du vin, de ne pas se rendre impur, de ne pas toucher sa chevelure jusqu'au jour où s'arrête le vœu de Naziréa. Nazir, c'est celui qui s'est écarté du monde pour une raison. Et dit Shimon HaTzadik, la plupart de ces gens-là, ce sont des gens qui font des vœux, mais qui ne sont pas très nets. Miyamai lo achalti nasha mazir tome. À part une seule fois. Cette fois-ci, c'était Nazir Echad Sheba Minadarom, un nazir qui venait du sud d'Eretz Israël. Yefei Naïm, il était beau, il avait de beaux yeux. Ou que Vutsotav Sedurotlo Taltalim, c'est-à-dire il avait de belles boucles, il avait une belle chevelure. Amarti lo beni, je lui ai dit, mon fils, Maraita le Ashrit Sarcha Zeanae. Je lui ai dit, pourquoi veux-tu venir au Bet Amigdash, au temple, et raser cette belle chevelure? Pourquoi as-tu fait le vœu de Naziréa? Pourquoi? Et voilà ce que raconte Shimon HaTzadik. Il dit, ce nazir, cet homme-là, voilà ce qu'il m'a répondu. Il dit, Roé Haïti et Tselaba Beiri, j'étais berger chez mon père. Et un jour, il est allé et il a vu son image dans l'eau de la source. Nistakalti beboua sheli. C'est-à-dire, il a vu comme si on lui avait mis un miroir devant les yeux. Et à ce moment-là, il dit, j'ai eu des pensées, j'ai eu des besoins. Pachaz ala yitzri. Mot à mot, mon yetzer, mon mauvais penchant, a voulu m'entraîner. Ve'amarti racha. Et je me suis dit, méchant, je vais me raser, je vais faire le vœu de Naziréa pour essayer de me séparer un petit peu de cette vie, des plaisirs de cette vie terrestre que j'ai entrevue au moment où je me suis vu dans cette eau-là. Agalecha chalashamayim, on va raser cette chevelure. Shimon HaTzadik lui a dit, Kamocha yirbu nozre nezirot b'Israël. C'est ça le vrai Naziréa. Et là, on doit comprendre cette Gemara. Voilà un homme qui, le jour où il s'est vu dans la glace, il a vu qu'il était bel homme. Ce jour-là, il a eu envie de commettre des actions qu'il n'avait pas du tout envie de faire avant. En quoi le fait de se voir dans une glace fait qu'un homme pense à se conduire d'une façon différente qu'il aurait pensé se conduire avant? Comme si je vais chez quelqu'un, je lui dis, tu es beau, tu es intelligent. À partir de ce moment-là, lui viennent des désirs qu'il n'aurait pas pensé avoir avant. Comment cela se fait-il? On est obligé de dire, on avait dit le théorème suivant, la réponse suivante. Si je me regarde avec mon propre regard, je n'ai pas des droits. Je n'ai que des devoirs. Si je me regarde avec le regard des autres, je commence à avoir des droits. Se voir dans la glace, ça veut dire s'observer, jeter sur soi le regard que les autres jettent sur vous. Ça veut dire se regarder avec le regard des autres et de savoir que ce que les autres apprécient, ça a une valeur. Avant, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il pouvait échanger sa beauté contre quelque chose d'autre. Il ne savait pas qu'il avait des droits. Il croyait qu'il n'avait que des devoirs. Les droits, ce sont ce que les autres me concèdent. Moi tout seul, je ne pense pas en avoir. Et là est la différence entre droit et devoir. Celui qui est seul, qui se regarde avec son propre regard, il se demande quel est le sens de sa vie. Il se demande en quoi l'événement présent m'interpelle. Il se demande qu'est-ce que je dois faire à cet instant-là. Comment dois-je me conduire maintenant? Comment se fait-il que quelqu'un, tout d'un coup, puisse vouloir satisfaire quelque chose, des besoins qu'il n'a jamais eu avant? C'est que ces besoins-là sont devenus légitimes. Il s'est regardé avec le regard des autres. Ça n'est plus sa vie à lui, c'est la vie des autres. Là est la différence entre le droit et le devoir. À partir du moment où je suis conscient de représenter quelque chose aux yeux des autres, j'acquiers aux yeux des autres, à mes yeux maintenant aussi, des droits. Et j'ai des besoins formidables d'assouvir ces droits-là. Cela me crée un besoin que je n'avais pas. Si l'autre me dit, tu sais, tu peux faire telle et telle chose, parce que tu as de quoi payer telle et telle chose, à ce moment-là, j'en ai le besoin. Mais avant, je n'en avais pas le besoin. C'est l'autre qui me concède un droit. Et je vis maintenant une vie de droit. Alors qu'avant, lorsque je ne me jetais pas le regard des autres, mais mon propre regard, je ne vivais pas de cette façon-là. Je vivais avec un autre système. L'autre système qui était, en quoi ce que j'ai m'interpelle. C'est déjà une vie, non pas de droit, mais de devoir. C'est comme ça qu'on pourrait comprendre cette Gemara. Et ça, ça va très très loin. Parce que ça voudrait dire ceci. Que si j'essaie de savoir tout ce qui est à ma disposition dans ce monde-ci, tout ce que les autres me concèdent, tout ce que le monde lui-même me donne comme possibilité, je vais avoir des besoins extraordinaires à satisfaire. Je vais avoir une vie qui n'est plus une vie de devoir, qui n'est plus une vie de sens des choses, mais une vie de satisfaction de besoins. Les besoins qui me sont personnels n'ont aucun rapport avec les besoins qui me sont créés par les regards des autres. ce que cette Gemara dans le traité de Nedarim nous dit, c'est que de se regarder avec le regard des autres, ça n'est pas la vie. Ça n'est pas le sens de sa propre vie. Ça me donne des besoins qui en vérité ne sont pas les moins. Ça n'est pas moi qui veux ceci. Parce que moi, je sais me regarder d'un autre regard. Ça n'est pas que chaque chose soit un prétexte pour pouvoir assouvir quelque chose. Besoin qui me viendra après la possibilité de le satisfaire. Mais c'est le contraire, s'interroger sur ses propres besoins. Et lorsqu'on s'interroge sur ses propres besoins, les besoins sont très faibles par rapport au devoir. Au devoir, c'est-à-dire au sens qu'on donne à sa propre vie. C'est lorsque je me regarde avec le regard des autres que les besoins deviennent formidables parce que je me regarde en tant qu'être de droit et non être de devoir. Ça, c'est la différence qu'on avait vue entre la philosophie grecque et la philosophie juive. Le moment, la possibilité qui m'est donnée de pouvoir vivre, faire quelque chose de ma vie, ça n'est pas un marchandage vis-à-vis des autres. Ça n'est pas le regard de l'autre qui va me le commander. Et là, on va essayer de comprendre encore quelque chose d'autre. Il y a des gens qui sont capables de saisir un moment, d'être dans une situation particulière, d'être des héros, alors que d'autres en sont incapables. Il y a des moments où moi-même je sais que je suis capable d'énormément de choses, alors que dans d'autres situations, j'en suis totalement incapable. On va donner des exemples. Il y a des gens qui, dans une situation conflictuelle, au moment d'une guerre, par exemple, se révèlent comme des héros. Mais après, on ne voit pas du tout cet héroïsme traduit dans la vie de tous les jours. Il y a le contraire aussi. Il y a des gens qui, dans une situation conflictuelle, sont incapables de réagir. Mais qui arrivent à transcender la vie de tous les jours. À quoi cela est dû? Cela est dû au fait qu'à un moment ou un autre, ils ont réalisé qu'ils avaient ici un sens à donner à leur vie. Qu'ils étaient sûrs de la réalité du moment. Ça n'est pas le regard de l'autre, c'est mon regard. Je ne suis pas en train de satisfaire quelque chose, mais je suis en train de vivre quelque chose. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont créés, qui sont programmés pour des situations exceptionnelles et qui ne savent pas vivre la vie de tous les jours. Il y a des gens, au contraire, qui sont mieux programmés pour la vie de tous les jours et qui sont perdus dans les situations conflictuelles. Et on va donner un exemple. Comment un homme sait-il de quoi est-il capable? Comment est-ce qu'un homme va savoir s'il y a une situation difficile, conflictuelle, à ce moment-là, je peux sentir de quoi je suis capable. Mais dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont capables de réagir que lorsque on les interpelle d'une façon extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, ils se rendent compte de leurs possibilités, pas de leurs droits. Des droits, ils n'en ont pas, de leurs possibilités. On va donner un exemple. Il y avait à Yerushalayim, il y a une centaine d'années, un homme qui était porteur d'eau. Il s'appelait Baruch Mordechai Tzuker Mandel. C'est un homme connu. On peut voir la photo dans certains livres. C'était le porteur d'eau de la ville de Yerushalayim. Et voilà l'histoire de cet homme-là. Cet homme s'appelait Baruch Mordechai parce que sa Brit Mila avait eu lieu le jour de Purim. Et vous savez que le jour de Purim, on dit Baruch Mordechai. C'est pour ça qu'on lui avait donné ces deux noms-là, Baruch Mordechai. Son Moël, c'était celui qui s'est appelé du nom de son livre, Rabbi Moshe Sofer, le Khatam Sofer. Il était né dans la ville de Presbourg, en Hongrie. Le Khatam Sofer, au moment où vous savez où on dit Veomar Lach Bedamai Chayi, au moment de la bracha après la Brit Mila, on met du vin dans la bouche de l'enfant. Et le Khatam Sofer a dit à ce moment-là, Nichnas Yayin Yatsasod. Nichnas Yayin Yatsasod, c'est une parole connue de nos Chachamim. Nichnas Yayin, ça veut dire le vin est absorbé, Yatsasod, les secrets sortent. Quelqu'un, lorsqu'il est sous, livre des choses qu'il n'aurait pas livrées autrement. C'est une parole des sages qui est très connue, Nichnas Yayin Yatsasod. Ses parents n'avaient pas compris du tout ce que le Khatam Sofer a voulu dire. Et longtemps après, on lui a toujours raconté, on lui a dit, sache que le Khatam Sofer a dit une parole bizarre, le jour de ta Brit Mila, Nichnas Yayin Yatsasod. Ce garçon-là était un garçon qui était devenu un bachour à la yeshiva du Khatam Sofer et qui étudiait énormément, mais qui ne comprenait jamais rien. Chaque fois qu'il avait un examen, il avait un zéro. Jour et nuit, il étudiait. Et chaque fois qu'on lui demandait, mais comment c'est possible, il disait, tu vois, ça veut dire que tout est possible. Je suis comme le bon Dieu m'a fait. Il ne comprenait rien. C'est au point que lorsqu'il eut 20 ans et qu'on ne savait pas quoi faire de lui, le fils de son rave, le Khatam Sofer étant mort, l'a envoyé en Eretz Israël. Il lui a dit, va là-bas. Là-bas, tu trouveras peut-être plus facilement ta place. Le zrout d'Eretz Israël va peut-être faire de toi quelqu'un. Et il est arrivé en Eretz Israël. Il est devenu porteur d'eau. Et tout le monde savait que son métier ne lui prenait que quelques heures par jour. Et tout le reste du temps, il était au Beit HaMidrash jour et nuit. Il étudiait la Torah. Il répétait sans cesse. Et lorsqu'on lui demandait quelque chose, il ne savait rien. Au point qu'on l'appelait Amar et Tzrasid. Vous savez que dans les Pirkei Avot, il est écrit « Velo Amar et Tzrasid ». Un ignorant ne peut pas être Tzrasid, ne peut pas être un homme pieux. Et lui, on l'appelait Amar et Tzrasid. C'était l'ignorant pieux. Un jour, il était toujours porteur d'or, il avait 70 ans. C'était le jour de Purim, chez un des rabbanim de Yerushalayim qui s'appelait Rav Shlomo Zalman de Lublin, le Torah Tresed. Il était à la souda de Purim et ce rav lui a donné beaucoup à boire. Et à ce moment-là, il s'est levé et il a commencé à réciter des masertot, des traités du chasse du Talmud Parka. Et tout ce que le rav lui demandait, il savait. Il était complètement sous. Et au moment, il s'est endormi et au moment où il s'est réveillé, on lui a raconté ce qu'il avait fait. Et il a dit, ça veut dire que le travail de toute ma vie est perdu. Puisque j'avais décidé, depuis que j'étais petit, de vivre dans la anava, dans la modestie la plus grande, et de ne jamais montrer qui j'étais et ce que je savais. Mais maintenant, je comprends ce que le Khatam Sofer a dit au jour de ma Brit Mila. Nichnas Yayin, le vin rentre, Yatsasod, et le secret sortira. Yayin, la valeur des trois lettres, Yud, Yud, Nun, c'est 70. Sod, aussi, la valeur des trois lettres, c'est 70. Il dit, j'aurais dû faire attention à cet anniversaire de 70 ans. Ça, c'est un homme qui était connu à Yerushalayim, qui est mort juste avant la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Rav Baruch Mordechai Tzuker Mandel. Comment quelqu'un peut en arriver là? Comment quelqu'un peut arriver à travailler chaque instant de sa vie pour arriver à un but précis qu'il s'est donné? C'est ça ce qui a marqué dans le Rambam. Comment peut-on définir l'amour qu'un homme doit porter à Kadosh Baruch Hu? Nimtza shoge batamid. C'est-à-dire qu'un homme peut décider de soumettre sa volonté à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de vouloir être ce qu'on a pu désirer pour lui, et ça tamid toujours. Il y a des gens qui sont capables de le faire à chaque instant de leur vie, il y a des gens qui ne sont capables de le faire qu'en des moments de crise. Il y a des gens qui sont incapables de quoi que ce soit. Et comment est-ce que eux vont-ils être capables? Comment eux vont-ils savoir? Ça dépendra de leur décision. Ça dépendra de leur décision. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, Moi, je ne suis pas grand-chose. Je n'ai pas beaucoup de besoins, je n'ai pas beaucoup de sagesse, je n'ai pas beaucoup de possibilités. Je suis quelqu'un de quelconque. Je lui ai répondu, tout le monde est quelconque. Le problème est de savoir qui on veut être. D'où est-ce qu'on le voit ? On voit que la Gemara dans le Darim nous dit ceci. Nishbati va kayema lishmor mishpate tzidkecha. David Ameler, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait des nedarim, des vœux, des serments. Lorsqu'il se sentait incapable de faire quelque chose, il faisait le vœu. Là, vous savez que n'importe qui trouve ça totalement bébête. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas capable de faire quelque chose, qu'est-ce que tu t'enfermes dans un serment ? Tu as besoin de ça pour faire quelque chose ? Oui. Un homme a besoin de se définir une personnalité. Nishbati va kayema lishmor mishpate tzidkecha. Je ne sais pas qui je suis. Je vais essayer de savoir quel peut être le sens que je peux donner moi personnellement à ma vie. Et ça, ça peut être une fois et ça peut être à chaque instant. Et selon le sens vers lequel je pense pouvoir me diriger, ça c'est le sens de ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Chaque homme a des possibilités en lui qui ne dépendent que de son ambition. Les moyens de le réaliser, un homme peut s'enfermer dans une personnalité qui n'est pas la sienne. Un homme peut être porteur d'eau pendant toute sa vie parce qu'il a décidé que ce serait ça sa personnalité. Et il lui faut un accident pour qu'à l'âge de 70 ans, ça craque. Voilà ce dont est capable un homme. Un homme est capable au moment de crise parce qu'il a décidé qu'il serait quelqu'un, que cet événement, c'est celui qui allait donner le sens à sa vie. À partir de ce moment-là, il est capable de choses dont il ne serait jamais imaginé être capable dans un autre moment. Mais à ce moment-là, il a vu que l'événement le poussait à cela. Chacun de nous peut arriver à donner un sens à chaque événement. Chacun peut. Et c'est ça ce qui est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit ceci. Un homme doit dire « Bishvili nivra olam ». Le monde a été créé pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que je suis seul ici ? Non. Ça veut dire qu'il y a un sens dans le monde à ce que je dois faire moi, indépendant des autres. J'ai quelque chose à faire. Je peux faire quelque chose. Je peux être quelqu'un. Comment est-ce que je vais savoir qui être ? Je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande et comment je peux donner un sens à ce qu'il m'a demandé. Ça, ce qu'il dit le Rambam. Nimtza shoge batamid. Je peux à chaque instant de ma vie essayer de savoir quelle est la mitzvah qui m'est proposée. Qui suis-je? Comment je peux la réaliser? Tout dépend de mon ambition. Je peux aller haut, je peux aller moins haut. Ça, c'est ce qu'on appelle une vie de devoir. Tout ce qui ira dans le sens de ce que j'ai décidé être ma vie sera pour moi une possibilité. C'est pour ça que Chayav Adam Lomar, un homme est obligé de dire Bishvili Nivra Olam. Le monde a été créé pour moi, c'est-à-dire mon monde a été créé pour moi. Il n'a pas été créé simplement pour que je puisse profiter de quelque chose et que ensuite ça s'en aille. Bishvili Nivra Olam, parce que si c'est comme ça, un homme ne pourra jamais profiter de tout ce qu'il y a au monde. Ne pourra jamais profiter de tout ce qui lui a été proposé. Le problème, c'est de savoir utiliser ce qui lui est proposé. Ça, ce qui veut dire Bishvili Nivra Olam. Le monde a été créé pour moi. Ça veut dire que mon monde, la sphère où je vis, a un sens pour moi. C'est à moi de lui donner un sens. C'est la raison pour laquelle on a trouvé dans l'histoire juive des gens qui ont réalisé des choses extraordinaires. Quelquefois à un moment, quelquefois pendant toute leur vie. On va aller encore un petit peu plus loin. Le Rav Israël Salanter, il avait l'habitude de dire que le Olam Hazé, ce monde-ci, c'est comme un marché dans lequel tout celui qui peut acheter le plus possible, Khatov, Khatov ve'achol, c'est-à-dire prends et mange. Ce monde-ci, c'est un monde de possibilités. Tout celui qui utilise le plus possible de possibilités, tout celui qui utilise le plus possible d'occasions, a donné le plus de sens à sa vie, c'est-à-dire a le plus collé avec ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Parce que le sens de ma vie, c'est la raison de ma création. Ce que j'arrive à percevoir de ce que Dieu m'a demandé. C'est pour ça qu'il disait « Chatov ve'achol ». Il dit comme disent les goyim aussi te disent « Tant que tu vis, tu profites. Après, il n'y a plus rien. » Le monde est fait comme ça, c'est vrai. Il faut juste connaître la nuit, en savoir dans quel sens. C'est-à-dire que chaque occasion est bonne. C'est pour ça que le Midrash raconte une histoire suivante. Il y avait un homme, Rab Zera, dont les Gabaï Tzedaka, Gabaï Tzedaka, c'est ceux qui collectent pour la charité. Les Gabaï Tzedaka, chaque fois qu'il le voyait dans la rue, il fuyait. Parce qu'il est connu que cet homme-là, tout ce qu'il avait, il le donnait. Il était incapable de prendre le Maaser. C'est ce que c'est le Maaser. Maaser, c'est-à-dire qu'on donne à la Tzedaka la dixième partie de ce qu'on a. Lui, tout ce qu'il avait dans la poche, il le donnait. Chaque fois qu'il allait dans les rues et que les Gabaï Tzedaka le rencontraient, il passait de l'autre côté parce qu'il savait que le pauvre sortait sans rien. Et toujours, il arrivait à les poursuivre et à tout leur donner. Si quelqu'un réfléchit, il dit, c'est bête, on ne met pas tous ses yeux dans les mêmes paniers. Peut-être que demain aussi, je peux faire une mitzvah. Ça, c'est le sens du moment présent. Si j'ai une possibilité maintenant, il est difficile d'être programmé. Il est difficile de se retenir. Et où est-ce qu'on voit ça? On voit que la Torah nous dit, Vanesim et Viu, les Nesim, les princes, lorsqu'il s'agit de donner pour construire le Mishkan, pour construire. Comment on traduit Mishkan? Le tabernacle dans le désert. Il est marqué Vanesim et Viu. Les Nesim, les princes, ce sont eux qui ont amené les choses les plus précieuses. Et Avne Hashoam. Ils ont amené les pierres précieuses dont on avait besoin pour l'habit du grand prêtre. Et pourtant, Nesim est marqué sans Yud. On leur a enlevé le Yud. Nesim, parce que le Yud fait partie du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara nous dit pourquoi? Parce que les Nesim sont venus les derniers. Et pourtant, on sait pourquoi ils sont venus les derniers. Parce qu'ils ont dit que le peuple amène tout, tout ce qui manquera, on le donnera. Qu'est-ce qui manquait? Les pierres précieuses que le peuple n'avait pas, ils les ont données. Normalement, c'est formidable. Quelqu'un, il n'a pas raté son coup. Il s'est dit, on va laisser tout le monde amener. Ce qui va manquer, on va le donner. Et non, Vanesim et Viu, ils sont sans, ils ont de leur enlever le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu être les premiers. Ah, ils n'auraient peut-être pas amené les pierres précieuses, c'est pas grave. Mais ils auraient été les premiers. Ça, c'est donner un sens à l'événement. On doit pouvoir être le premier. Une fois dans sa vie, on a l'occasion. Tu es le Nassi, tu es le premier. Tu peux être le premier à donner. Ne dis pas, on verra ce qui manque. Parce que là, tu n'as pas utilisé cette possibilité que tu avais. Ça, c'est donner un sens. Il y a des gens qui savent donner un sens à chaque moment. Il y a des gens, lorsqu'on leur propose un seul moment privilégié, ils n'arrivent même pas à lui donner un sens. C'est pour ça que Vanessim, on leur a enlevé le nom d'Akadosh Baruch Hu, la lettre qui était du nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu t'a créé. Et le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa volonté, c'est ce que nous percevons de lui. Et toi, tu n'as pas perçu ce qu'il t'a demandé. Vanessim et Viu, bien que vous avez amené les choses les plus précieuses, mais on a enlevé le Yud. Ça voudrait dire qu'un homme a maintes et maintes occasions dans sa vie de réaliser quelque chose de grand. Ce quelque chose de grand dépend de ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu pour lui. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu pour moi? Nimtsa shoge ba'avata. Il a voulu pour moi ce que je peux imaginer qu'il me demande. C'est ce qu'il a voulu pour moi. Ce que je n'imagine pas qu'il me demande, les droits que j'ai, les possibilités que j'ai, il ne me l'a pas demandé. Là, la différence entre droit et devoir. Si j'ai des droits, si j'ai des besoins à satisfaire, ça ne fait pas partie de ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé. C'est pour ça que ce Nazir, lorsqu'il a vu qu'il avait des possibilités, il a vu que des gens seraient capables d'échanger sa beauté contre énormément de choses, il a eu des besoins formidables. Parce qu'il est passé d'une situation de devoir à une situation de droit. Celui qui passe d'une situation de devoir à une situation de droit, il perd complètement les pédales. C'est pour ça qu'il dit Pachazala Yitzri ou Bikesh le Tordeni Minaolam. Rachidi, il a voulu me faire faire des choses que je n'aurais jamais faites. Parce que maintenant, je ne suis plus à interpréter mes possibilités, je suis à interpréter mes besoins. Et ces besoins-là, je ne les avais pas avant. Ils m'ont été créés par l'extérieur. Alors que moi, je dois regarder les choses de l'autre côté. Non pas les possibilités qui me sont créées par le regard de l'autre, mais les possibilités qui me sont données de réaliser quelque chose de moi-même. Ça, c'est la différence entre la civilisation grecque et la civilisation juive. C'est pour ça que les Chachamim sont arrivés à des madrigotes, à des choses que personnellement n'est jamais arrivé. Et ça va très loin. Le Midrash raconte une histoire. Maase de Eliyahu Hanavi, qui a rencontré un des Chachamim de la Gemara et qui lui a dit, ton voisin dans le Olam Haba, ton voisin dans le monde futur, c'est tel et tel. Et lorsqu'il est allé chez lui, il a vu qu'il était totalement ignorant. Il lui a demandé, dis-moi, qu'as-tu fait une fois dans ta vie? Est-ce que tu as fait quelque chose de grand? Il a dit, j'ai jamais rien fait. Seulement, un jour on m'a dit qu'il avait une jeune fille qui avait été prise en captivité. Et je ne savais pas comment accomplir la mitzvah de Pidyon Shvuim. Il y a une mitzvah qui est le rachat des captifs. Il dit, alors comme j'étais fort, que j'étais jeune, je me suis vendu en esclave pour 7 ans. Et avec l'argent que j'ai reçu, j'ai racheté cette jeune fille. Comment un homme peut arriver à faire ça? Comment un homme peut arriver à saisir l'occasion? Ça, c'est ce qu'on appelle une vie de devoir. Ça veut dire que si j'essaie de savoir quels sont mes droits, je ne suis pas obligé de le faire. La Torah ne m'oblige pas, moi, à aller travailler pendant 7 ans pour que quelqu'un soit sorti de captivité. On ne me demande pas de le faire. Seulement, c'est ça le problème de Nessim. Si tu fais les comptes, si tu essayes d'être performant, c'est-à-dire d'équilibrer tes droits et tes devoirs, alors va Nessim et vie où on enlève le Yud. On enlève le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est peut-être pas ça qu'on te demande. Essaye de savoir ce dont toi tu pourrais être capable. Et si tu te sens incapable, alors tu vas essayer d'imaginer et tu vas même faire le vœu de coller à celui que tu imagines pouvoir être. Ça, c'est une possibilité, Calon. Ça va très loin. Si on réfléchit, ça va très loin. Ça veut dire que même l'homme qui serait le plus détaché de tous les biens matériels, qui serait le plus détaché de tous les besoins, mais qui réagirait comme Socrate et qui dirait que la vie ne vaut pas la peine, tous les malheurs du monde ne valent pas la peine de pleurer, ça veut dire qu'il n'a pas compris à quoi servait la vie. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lui a dit « supplie pour qu'on te laisse la vie sauve », il n'a pas voulu le faire. Parce qu'il n'y avait pas de sens à la vie. D'être au-dessus, d'être quelqu'un, ça n'a plus de sens. C'est un travail pour rien. Être un chacham, comme il l'était lui, Socrate, au point qu'au moment où il allait mourir, il était en train de résoudre un problème mathématique, ça veut dire qu'on est tellement au-dessus des choses et malgré tout, on n'a pas réussi à donner un sens aux choses. Malgré tout, on n'a pas réussi à donner un sens à la vie. Malgré tout, on n'a pas compris pourquoi on est plus que l'animal. C'est ça ce qu'on appelle Ahavat Hashem. Ahavat Hashem, ça veut dire essayer de savoir qu'est-ce que je peux faire de grand, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné comme possibilité. Avant de passer aux questions, on va essayer de voir encore, ça va encore un petit peu plus loin. À propos des Levim, les Levim, c'est ceux qui servaient au Beth Amikdash, la tribu de Lévi, qui ne tunim, hemali, Akadosh Baruch Hu les a choisis parce qu'eux n'ont pas fauté au moment du veau d'or. Si on réfléchit bien à ce que ça veut dire que tout le peuple d'Israël avait droit à avoir une part dans la terre d'Israël. Et qui était à la disposition du public pour servir au temple et pour enseigner la Torah? Les Levim. Ça veut dire que plus j'en fais, plus on me demande. Normalement, on aurait dû dire le contraire. Puisque vous n'avez pas fauté au moment du veau d'or, alors les autres vont travailler au Beth Amikdash, les autres ne vont pas avoir de part en Eretz Israël, mais vous allez hériter de la terre. Non. Ça veut dire que plus j'envisage de possibilités, plus j'en ai. Je ne peux pas demander à celui qui a faute et au vaudan d'être à la disposition des autres. C'est impossible. Mais à celui qui n'a pas fauté, je peux lui demander, à lui, d'être à la disposition des autres. Pour lui, ça va être simplement la mise en pratique de ce qu'il a déjà fait. Ça va lui donner l'occasion de vivre, de donner un sens, de montrer son amour pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on va passer presque de la théorie à la pratique. Parce que là, il faut savoir, il faut accepter une donnée qui est très simple. Le Lévi, ça peut être quelqu'un de très grand. Mais on peut être grand une fois. On peut être grand en une occasion. Parce qu'en cette occasion, on a trouvé un sens aux choses. Mais à part ça, on peut rester petit. Comment quelqu'un va savoir si l'instant duquel il a profité pour être quelqu'un de grand, c'est quelque chose qui fait partie de sa personnalité ou c'est quelque chose de totalement exceptionnel? Il va essayer de traduire ça après dans la réalité. C'est ça ce qu'on a demandé au Lévi. Au moment de la faute du Vaudan, vous avez été grand. On va voir si c'est un effort particulier, si c'est quelque chose qui ne colle pas à votre personnalité, si c'est quelque chose que vous avez fait en un instant exceptionnel, ou si c'est quelque chose qu'on peut réaliser chaque jour. C'est ça ce que la Torah dit. La Torah dit « Kine tunim ne tunim emali ». Le fait de ne pas avoir participé à la faute du Vaudan, ça te donne des possibilités. Possibilité de travailler encore plus. Ça, c'est seulement si on pense que chaque instant de la vie est fait pour soumettre sa volonté à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour essayer de savoir pourquoi je suis créé. Ça, le sens des choses. Si je pense de cette façon-là, alors je suis capable de traduire même des instants exceptionnels. Mais si je ne pense pas de cette façon-là, alors c'est impossible. C'est pour ça que les Lévites, on leur a demandé, à partir du moment où vous avez été des gens exceptionnels, on va voir comment vous allez traduire ça dans la réalité. Parce que ne m'appartient que ce pour quoi j'ai travaillé. Ça, c'est une vieille idée, mais je la répète encore aujourd'hui. Je ne sais qui je suis qu'à travers mes actions. Non à travers mon système de pensée. On a déjà donné l'exemple. Lorsque je lis une idée dans un livre, est-ce que cette idée est la mienne ou celle du livre? Elle ne devient la mienne que lorsque je l'ai mise en pratique. Tant que je n'ai pas pu la mettre en pratique, ça reste l'idée du livre. Ça veut dire, je ne sais de quoi je suis capable. Je ne sais qui je suis qu'à partir du moment où je suis arrivé à traduire mon idée en pratique. Sinon, ça n'a aucune valeur. C'est la raison pour laquelle la civilisation juive, le système du judaïsme, ça a toujours été, ce sera toujours le système de la mitzvah. C'est le système du devoir. Même dans les rapports entre un homme et un autre, c'est une société de devoir et non une société de droit. La différence entre la Torah et le socialisme, c'est que bien que les richesses sont redistribuées, elles ne sont pas redistribuées par le gouvernement. C'est une mitzvah qui est laissée à chacun. C'est à l'homme de redistribuer, ce n'est pas le gouvernement. Mon travail, si je dois donner à l'autre, c'est à moi de lui donner. C'est une mitzvah, c'est un devoir. Ça n'est pas un droit pour l'autre. Le droit pour l'autre ne naît que de ma conception de son droit. Si je pense que l'autre a droit, je lui donne. Et ça, c'est mon devoir. Mais personne n'a de droit de bénéficier de mon travail. Et bien que de l'extérieur, ça a l'air d'une société socialiste, c'est-à-dire du partage obligatoire des richesses, mais cette obligation, c'est une mitzvah, c'est un ordre, c'est un devoir. Ça n'est pas un droit pour l'autre. L'autre n'a aucun droit de recevoir même ma charité. C'est mon devoir. Même dans mes rapports avec l'autre. Il est vrai que souvent mes devoirs consistent à respecter ses droits. Il a des droits. Mais de dire que c'est une société de droits, c'est faux. Même ses droits, ce sont la limite de mes devoirs. Parce que quelquefois, mon devoir est de respecter chez l'autre quelque chose qui devient son droit. Ça va très très loin. Parce que ça veut dire qu'il y a des hommes exceptionnels qui se sont levés dans le judaïsme et que chacun pourrait l'être s'il essayait de réfléchir et essayait de voir quel est le sens de son aventure. Au lieu de coller à la civilisation grecque, et c'est ça tout le problème de Hanouka. Parce que le problème de Hanouka n'est pas résolu. Aujourd'hui encore, le problème de l'assimilation, c'est ce problème-là. Et on dirait même aujourd'hui plus que jamais. Parce qu'il y a un moment où l'assimilation juive était le fait des idées. Aujourd'hui, c'est même plus le fait des idées. C'est comme au temps du Beth Amikdash. Au temps du Beth Amikdash, on avait construit une arène à côté du Beth Amikdash. Les Grecs sont venus, ils ont construit des endroits pour jouer des théâtres, les jeux du cirque. C'est quelque chose qui est totalement antinomique avec le judaïsme. Parce que si rien n'a de sens, alors je peux profiter de l'esthétique. Mais si les choses ont un sens, même ce profit de l'esthétique, même cette jouissance de la beauté, elle doit être canalisée vers quelque chose. Mais non pas pour elle-même. Et c'est ça la vraie discussion. C'est ça le vrai problème de l'assimilation. Parce qu'il est plus facile de s'adonner à une vie dont on ne percevra jamais le sens, mais qu'on va meubler de désirs. C'est à ça que mène la civilisation grecque. Et même si peuvent s'élever des gens qui sont au-dessus, ces gens qui sont au-dessus n'ont pas donné de sens non plus aux choses. Et ça, ça va tellement loin qu'il faut savoir qu'il y avait en 1942, en Russie, une ville qui s'appelait la ville de Kelm. Dans la ville de Kelm, il y avait une yeshiva très connue. Et lorsque les Allemands ont sorti tous les bachorim de la yeshiva pour les amener dans la forêt, là où on creusait les tranchées et où chacun tombait, ils sont partis en chantant « Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu » mot à mot, « Ashrenu » comme nous sommes heureux, « Matov chelkenu » combien est bonne notre part, « Umanayim goralenu » combien notre sort est agréable. Ça veut dire que n'importe quel instant, même cet instant-là, où ve'avta et Hashem Elokecha bechol nafshecha, où on me demande ve'avta que ta volonté soit celle d'Akadosh Baruch Hu au point de lui donner ta personne, on puisse aussi lui donner un sens. Ça n'est pas une fin, c'est un commencement. Ça n'est pas un accident qui arrive, mais c'est la vie elle-même. C'est pour ça qu'on a déjà dit une fois que le martyr du juif, ça n'est pas une façon de mourir, mais c'est une façon de vivre. Jusque-là, ça va. Alors, si ça va jusque-là, il est évident que dans chaque instant de la vie, on a ces possibilités-là. C'est ça la raison de la création, c'est ça le système, c'est ça le droit et les devoirs. C'est que même vis-à-vis de l'autre, où je pourrais instituer une société de droit, j'institue une société de devoirs pour que l'homme sache qu'il a une possibilité. La vie, c'est une possibilité. Cette possibilité, elle m'a été donnée par Akadosh Baruch Hu et je dois essayer de savoir de quoi me croit-il capable. Si je raisonne de cette façon-là, alors il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vicissitudes de la vie qui passent autrement. C'est ça, Ashrei Noumatov Chelkenu. Pour terminer, je voudrais juste montrer à quel point ça va. Tout le monde connaît la paracha de Vaïra. La paracha de Vaïra, elle commence par quoi ? Avraham Avinu était assis à la porte de sa tente, Béloné Mamré, et sont arrivés trois anges. Il était assis que Chomayom. Dit Rashi, pourquoi ? Pourquoi que Chomayom ? Il dit parce que Avraham Avinu était quelqu'un qui voulait faire la mitzvah de Achnasat Orochim, c'est-à-dire qu'il ne pouvait vivre sans qu'il ait des invités chez lui à la maison. Et Akadosh Baruch Hu le savait. Et comme c'était le troisième jour après qu'il ait accompli la mitzvah de Mila, qu'il s'est fait lui-même la circoncision, et qu'il était fatigué, Akadosh Baruch Hu nous dit Rashi que Chomayom, il a fait qu'il fasse tellement chaud que personne n'était dehors. Résultat, comme Avraham Avinu voulait quand même vraiment faire la mitzvah, sont venus trois anges, que Chomayom. Il a couru à leur rencontre. Et si on fait un petit peu les comptes, qu'est-ce qu'on va voir? Il a tellement mérité de se reposer qu'il a été obligé d'accomplir la mitzvah d'Achnasat Orchim par la chaleur la plus torride. Qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu a voulu lui faire une tova. Il va faire tellement chaud que personne ne va venir. Mais comme tu veux quand même avoir des invités, alors on va quand même les amener. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est qu'au lieu de faire la mitzvah tranquillement, tu es fatigué et tu vas faire la mitzvah avec encore plus de chaleur. Comprenez? Ça le sens des choses. Alors on va dire, mais c'est totalement anormal. Non, c'est pas vrai. C'est ça ce qu'Abraham avait voulu. C'est ça ce qu'on a dit pour les Levim. Qui ne tunim ne tunim ema. Ça c'est le sens de ce qu'on appelle en hébreu ma'amatz. Ma'amatz c'est l'effort. Et ça vient du mot ometz. Ometz qui veut dire le courage. Il faut avoir le courage de regarder les choses autrement que seulement par le regard des autres. Il faut avoir le courage de pouvoir faire le ma'amatz, l'effort. Et où est-ce qu'on le voit? Voir une histoire très simple. Tout le monde connaît l'histoire de Ruth. Ruth à Moavia. Vous avez entendu parler? Ruth à Moavia, c'était une femme qui était restée seule avec sa belle-mère qui s'appelait Naomi et sa belle-sœur qui s'appelait Orpa. Le beau-père, les beaux-frères, tout le monde était mort. Elles se sont retrouvées trois femmes. Et Naomi a décidé de revenir en Eretz Israël avec deux jeunes femmes non juives. Une s'appelait Ruth et l'autre Orpa. Et les deux ont pleuré, ont voulu revenir avec Naomi en Eretz Israël et se convertir au judaïsme. Et Naomi leur a dit, c'est pas la peine. C'est une vie trop dure, au contraire, restez là. Va teire ki mitametzet hi. Elle a vu que Ruth mitametzet ometz. Elle s'est forcée. Et elle l'a amené avec elle en Eretz Israël. Orpa, elle l'a embrassé et au revoir. Qu'est-ce qui est sorti de Ruth? Ruth, c'est l'ancêtre de David Améler, du Mashiach. Qu'est-ce qui est sorti de Orpa? Goliath. Ça, c'est la différence entre l'effort et celui qui n'en fait pas. Elle n'a rien fait de mal, mais elle n'a pas fait l'effort. Et d'où est-ce qu'on voit ça? On le voit dans Rashi, dans la paracha de Noach, où tout le monde connaît l'histoire de Noach lorsqu'il s'est enivré. Il y a marqué « Vayikar, Shem, Vayefet, et Asimla ». Shem et Yefet, tous deux ont pris la couverture pour recouvrir Noach. Et il y a marqué « Vayikar » et la Gemara dans Sanhedrin, Dafaïn, la Gemara dit là-bas. Pourquoi il y a marqué au singulier « Melamet, Sheni, Tametz, Shem, Yoter, Miyefet » Shem, lui, Nit Ametz, il a fait plus d'efforts que Yefet. Yefet, il est allé avec lui. Il a accompagné. Celui qui a donné la vie à cette affaire-là, c'était Shem. C'est pour ça que la Gemara nous dit, Rachel dit là-bas, Zachou Banav, le Talit Shel Mitzvah. Lui a recouvert son père et les enfants de Shem ont reçu dans la Torah la Mitzvah des Tzitzit. Talit Shel Mitzvah, le Talit. Yefet aussi, il a reçu quelque chose. Ce qu'il dit Rachel là-bas, Shenitan Likvura. Yefet, on lui donnera Kvura. Il aura le droit de se faire enterrer en Eretz Israël. Yefet, c'est le grec. Lorsque viendra le Mashiach, qu'il y aura la guerre de Gog et Magog, à ce moment-là, après avoir été tué, Yefet sera enterré en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu l'enterre. Celui qui a fait la mitzvah, qui mitametzet, il a fait avec effort. Celui-ci, il a reçu le talit shel mitzvah. Celui qui n'a rien fait, il a fait comme un mort. Il s'est laissé entraîner. Il a fait aussi. Celui-ci, on va l'enterrer comme il faut. Chacun recevra quelque chose. Chacun selon le sens qu'il a donné à la vie. Un, il n'y a pas de sens. Il a fait comme un mort, alors on va lui donner une kouvoura, on va lui donner une sépulture en Eretz Israël. L'autre, il a fait, c'est lui mit ametz, toujours le même mot, qui mit ametzet, ometz. Ometz, ça veut dire l'effort et ça veut dire le courage. En même temps, les deux. Shem, c'est ce qu'a dit la Gemara là-bas. Me lamed shenit amet yoter mi efet. C'est lui qui a fait le. Puisque c'est lui qui l'a fait. Hein. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut du courage pour fournir un effort. Et il faut de l'effort pour pouvoir exprimer son courage. C'est pour ça qu'on est aussi le même mot, ometz. Ça, c'est le sens réel de la vie tel que la Torah le perçoit.
On va passer à une série de questions. Monsieur.
La volonté de l'homme, est-ce qu'elle peut faire changer son destin ou bien sa destinée en fonction de ses devoirs et de son comportement est-elle déterminée par Dieu?
Est-ce que la volonté peut faire changer son destin? Une autre question, s'il vous plaît. Alors, c'est moi qui continue. La première. Rav Eman, vous avez dit tout à l'heure, le sens de ma vie, c'est la raison de ma création. On sait et on a souvent entendu que nous sommes pratiquement tous des réincarnations d'autres âmes, on nous a souvent parlé de ça, et que si on revenait sur Terre, c'était pour accomplir ce qu'on n'a pas pu accomplir ailleurs, et dans les temps précédents, dans les vies antérieures. Alors, si le sens de ma vie, c'est la raison de ma création, de quelle manière savoir exactement notre vrai sens pour ne pas se retrouver sur d'autres rails? Première question. D'autres questions?
Est-ce que tu peux modifier le mazal de quelqu'un en fait que Dieu estimerait que certaines choses impures, pour reprendre un peu le thème dont on parlait hier, à savoir la pureté et la dureté, ont été pratiquées par la personne? Alors, généralement, effectivement, il la considère plus tout à fait comme pure, c'est-à-dire comme ayant mené sa vie comme Dieu le souhaitait, casser, entre guillemets, son mazal, c'est-à-dire effectivement lui donner une direction en plein cours de sa vie.
Très bien.
L'homme ne reçoit pas les récompenses pour ses mitzvot dans la vie présente. J'aimerais savoir en quoi ces mitzvot peuvent influencer son destin. Première question. Et deuxième question, j'aimerais savoir si la vie est un but en elle-même ou c'est un moyen pour atteindre ce but.
Bien. Oui.
Je voulais savoir s'il n'y avait pas une opposition entre accepter la situation dans laquelle on a été mis ou alors Dieu a voulu nous mettre et le fait d'en vouloir un peu plus à chaque fois. C'est-à-dire la volonté de s'opposer à l'état dans lequel nous sommes.
Est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre la volonté de Dieu et notre souci constant de vouloir un peu plus, toujours un peu plus? Oui.
Oui, il y a une autre théorie, quand tu dis que le regard des autres peut parfois déclencher en la personne la révélation de ce pourquoi il est sur terre.
Oh. Alors, là, très bien. Ça, c'est une bonne question.
Voilà. Bien. Tout à l'heure, le Rav Eman a dit que le fait du regard de l'autre peut être quelque chose de difficile parce qu'on n'a plus de devoirs, on a des droits, parce qu'on sent comment l'autre nous regarde et l'importance du regard de l'autre. Alors, mademoiselle dit, est-ce que le regard de l'autre ne peut pas déclencher, au contraire, une attitude qui soit positive et non forcément négative? Moi, je voudrais poser quand même la question qui nous concerne pratiquement tous ici. Il s'agit de la question de la beauté. Parce qu'on est tous Baruch Hashem, comme vous voyez. Le Rav a dit tout à l'heure. Le Rav, vous savez, on peut, quand on est beau, on n'est pas forcément intelligent. Hein. Alors, la beauté doit être canalisée par quelque chose, mais pas par elle-même. D'accord, pas par elle-même, mais par quoi elle doit être canalisée? Comment canaliser la beauté? C'est difficile, quelqu'un qui a une super gueule, comment il va faire? À moins de ne pas sortir, on n'a pas le droit d'être nazir d'un côté, on n'a pas le droit de s'enfermer. Il faut sortir, il faut vivre cette vie. Mais la beauté, c'est quelque chose de mal, parce que l'autre, il va te regarder du casier. Qu'est-ce qu'on doit faire de sa tête? Ça y est. Chut. Bien, on arrête tout. Le Rav va essayer de répondre globalement. Je vais donner 2-3 questions en même temps. Comme il y a des sujets qui reviennent souvent, je ne les redirai pas. L'histoire de la volonté, de la réincarnation, de la souffrance d'Abraham.
C'est quoi la volonté? Voilà. Est-ce que la volonté peut changer, quoi, le destin?
Voilà.
On a parlé de la volonté dans une perspective. C'était pour dire qu'un homme doit essayer de vouloir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut pour lui. En ça, on va répondre aussi avec la question du mazal. Il faut savoir qu'il y a une discussion dans la Gemara, mais normalement, et comme ça le Midrash le dit à propos d'Avraham Avinu, on dit que « en mazal le Israël ».« En mazal le Israël », ça veut dire que la vie du juif, la vie du peuple d'Israël, dépend de la manière dont le peuple juif l'amène. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire tracée, mais que la liberté est une condition de la mitzvah. Ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est une condition de la Torah. Pour pouvoir me demander quelque chose, on est obligé de me laisser libre. Et c'est pourquoi nous pensons que en mazal le Israël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mazal à casser, mais que ma vie, c'est moi qui l'écris. Je ne voudrais pas tellement m'étendre sur le sujet, mais ce qu'on a amené de Avraham Avinu prouve aussi qu'on écrit sa propre vie. Ce qu'on a vu qu'Avraham Avinu, alors qu'il était malade, a voulu accomplir la mitzvah. J'ai entendu qu'il n'a pas bien fait parce qu'il était malade, mais moi on n'a pas vu dans la Torah, au contraire, on a vu qu'il a très bien fait. Et bien qu'il était malade, et avec une force beaucoup plus grande qu'il l'aurait fait s'il n'avait pas fait aussi chaud, ça prouve que c'est l'homme qui écrit l'histoire. Et c'est en ça aussi que je voudrais répondre à la question de le sra, c'est-à-dire ce qu'on reçoit de la mitzvah dans ce monde-ci. La mitzvah, c'est celle qui écrit mon histoire. Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui avait le droit de se reposer. Le droit de se reposer, ça vous donne la possibilité de faire une mitzvah plus dure qu'avant. C'est ça le droit de se reposer. Comprenez ? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'on a voulu, le pauvre Avraham Avinu, on veut lui dire, voilà, on va encore te taper dessus. C'est ça le sens de mitzvah goreret mitzvah. Vous savez que la Gemara dit qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Ça veut dire que, à partir du moment où lui voulait absolument accomplir cette mitzvah, du côté d'Akadosh Baruch Hu, on était obligé de faire qu'aujourd'hui il fasse beaucoup plus chaud pour que tu puisses te reposer. Mais puisque pour toi c'est pas une raison, alors tu as l'occasion de faire encore une autre mitzvah, et encore plus grande. C'est comme ça que la vie du juif elle est décrite. Là je voudrais être très clair en ce qui concerne le Inyan des Gilgulim. Réincarnation, il faut savoir une chose. Ce que nous appelons la réincarnation, ça n'a aucun rapport avec l'idée goy de la réincarnation. La neshama, qu'on traduit en français par âme, c'est une caractéristique d'une expression d'une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Cela peut tracer la vie de milliers de personnes. Si une neshama, qui est donc l'expression d'une volonté d'Akadosh Baruch Hu, doit arriver à ce qu'on appelle en hébreu le tachlit, le tikkun, c'est-à-dire arriver à être réalisée, elle peut servir à plusieurs personnes, comme on dirait par exemple que plusieurs personnes peuvent avoir le même genre de mission, le même genre de caractère. Mais en aucun cas, ça ne met en cause la neshama qui est individuelle chez l'homme. C'est-à-dire qu'on n'est pas plusieurs sur la même histoire. C'est pas vrai ça. Le tikkun de la neshama, ça veut dire qu'il y a une certaine volonté d'Akadosh Baruch Hu que la vie des hommes se passe dans un certain sens. Si ça ne marche pas avec une vie humaine, on aura deux. S'il en faut deux, si ça ne marche pas avec deux, il en faut trois, il en faut dix, il en faut vingt. Mais ça ne veut pas dire que la personnalité elle-même appartient à une certaine personne et que je vis la vie d'un autre. C'est pour ça que ces problèmes de Neshamot sont des problèmes totalement théoriques et que le problème de la réincarnation, ça ne fait pas un problème en ce qui concerne ma propre personne. On sait que la Neshama de Moshe Rabbeinu, c'était la Neshama de tel et tel, mais il était Moshe Rabbeinu, il n'était pas tel et tel. Il a obéi à la même volonté d'existence qui a présidé à la naissance de Adam Harishon. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Ce qui ne veut pas dire qu'il est Adam Harishon. Donc ça, c'est un problème théorique qui ne nous concerne pas. Maintenant, il faut être très clair. Pas recommencer entièrement la conférence et de savoir est-ce que les choses bassement matérielles ont un besoin d'être. Pourquoi est-ce que la Torah fait allusion et utilise toujours le matériel? Je vais résumer en deux minutes. Tout ce qui m'arrive comme événement, tout ce qui existe dans la création, c'est une occasion. C'est ce qu'on a dit, un devoir. Un devoir et une occasion, c'est la même chose. C'est une possibilité. Si je ne l'utilise pas, c'est que je n'ai pas donné un sens aux choses. En ça, on peut dire que la vie, elle est sacrée. Bien sûr, elle est sacrée. C'est pas notre propos maintenant. Notre propos est de savoir, est-ce que moi, petit comme je suis, je peux être grand dans quelque chose. Je peux coller à quelque chose qui a précédé ma naissance, à une vue de la part d'Akadosh Baruch Hu pour moi. Ou alors je suis automatiquement insignifiant. Ce que la Torah pense, c'est que chacun, à chaque instant, il est possible que ces instants-là se résument à quelques instants dans la vie. Là, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. C'était une des questions. Il y a une Gemara dans le traité d'Avodah Zara. Yesh kone olamo b'sha'achat daf yud zayin. Je ne voudrais pas parler de ça. Il faut regarder dans le Midrash. Le Midrash, il est sur route. Où le Midrash cite un verset. Metuka shnat ha'oved imeat imarbe. Metuka shnat ha'oved, ça veut dire qu'il est doux le repos du travailleur. Imeat imarbe. Qu'il en ait fait beaucoup ou non, ce qu'il a fait, ça fait qu'il a un repos qui est doux. Le Midrash dit, il s'agit du Olam Haba. C'est-à-dire qu'un homme peut donner un sens à sa vie en une minute, et il peut le donner à chaque instant de sa vie. Ça, c'est une chose que nous ne pouvons pas savoir au début. Là-bas, la Gemara, elle parle de Boaz, celui qui s'est marié avec Ruth. Parce que vous savez qu'il est mort immédiatement après. Ça veut dire qu'on peut valoriser une vie en un instant. Mais moi, je ne peux pas le savoir. Quelqu'un peut, pendant toute sa vie, avoir fait les plus grandes bêtises, il fait teshuva. C'était ça l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya, dont parle la Gemara là-bas dans le traité d'Avodah Zara, qu'un instant peut changer toute la vie. Là-bas, la Gemara, elle parle de Eliezer ben Dourdaya, qui avait la vie la plus dissolue possible. Et un jour, il a voulu faire teshuva. Et il a compris qu'il n'arrivait plus à vivre comme ça. Il a tellement pleuré qu'il en est mort. Et la Gemara dit, « Bacha Rabbi, Rabbi Yehuda a pleuré et a dit, « Yesh kone olamo b'sha'achat. » Il dit pourquoi ? Parce qu'il a entendu une voix céleste qui disait, « Rabbi Eliezer ben Dourdaya me zuman le chaye olam haba. » Ça veut dire, « Rabbi Eliezer ben Dourdaya est invité au monde futur. » Ça veut dire qu'on peut donner le sens, on peut donner son sens à sa vie en un instant. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement difficile. Parce que là, il faut bien être clair. Il y a beaucoup de gens qui pensent, et le Rambam, il veut dire ici déjà, on a déjà parlé une fois de ça, on peut faire des averot, c'est-à-dire on peut avoir une vie facile en pensant RTV Hachouv. RTV Hachouv, ça veut dire, d'abord je vais m'amuser un petit peu et ensuite je vais faire teshuva. Comprenez? Mais on ne dit pas qu'on me laisse toujours la possibilité de faire teshuva. Ça, c'est pas une garantie. Il faut faire attention. Ça veut dire que le sens de ma vie, je dois pouvoir le trouver dans ce qui m'a été proposé. Et à chaque instant, il est proposé à l'homme des choix. Ces choix peuvent être petits, les mitzvot dont on a l'habitude de faire. Ils peuvent être grands, des mitzvot exceptionnels. Parce qu'un homme est capable de choses exceptionnelles. Chacun de nous, chacun est capable de choses exceptionnelles. Le problème, c'est de savoir faire le ma'amatz. Ma'amatz, c'est de ne pas avoir peur. Mais chacun est capable. Et si je sais ce que je vise, je suis encore plus capable. Et si je vise encore plus haut, je suis encore plus capable. Et si c'est les autres qui m'ont montré où viser, ça aussi, ça peut être le regard des autres. Ça, c'était une des dernières questions qu'on a entendues. C'est une bonne question. C'est que quelquefois, le regard des autres, ça me donne des possibilités. Pourquoi ? Parce que le regard des autres, ça n'est pas en tant que droit, c'est en tant qu'enseignement. On m'ouvre de nouveaux horizons. Ça n'est pas le regard des autres dont on avait parlé. On ne parle pas de celui qui étudie avec son maître et dont le maître lui donne un nouveau regard qui est celui du maître. On ne parle pas de celui qui étudie la Torah dont il va trouver à l'intérieur de nouveaux horizons. On ne parle pas de ça. On parle du regard des autres en tant que droit. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Celui qui s'est vu dans la glace, il s'est vu, et là on va arriver à une des dernières questions. Celui qui se voit dans la glace, il voit qu'il est beau. Et nous dit la Gemara dans le traité de Nedarim, tout d'un coup, pachaz ala yitzri. Ça veut dire, ça m'a donné, ça m'a ouvert des horizons que je n'avais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit alors, ça veut dire que la beauté doit être réservée à qui, à quoi? On doit pouvoir utiliser chaque chose, mais dans sa vie propre, pas dans la vie des autres. Et je vais vous donner un exemple. Un jour, quelqu'un m'a demandé, je crois après ça a été publié dans un journal médical, c'était un médecin, il m'a écrit une shéla, qui était de savoir, est-ce qu'on a le droit de procéder à la chirurgie esthétique? Voilà, il y a un monsieur, ou c'était une dame, dont le nez ne lui convenait pas, ou les oreilles, je ne me rappelle plus, est-ce que on a le droit, d'après l'halakha, de se les faire corriger? Et je lui avais répondu cette gemara-là. Ça, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce que je fais les choses parce que c'est l'autre, c'est la vie de l'autre que je suis en train de vivre, ou c'est la mienne? Alors on demande, alors quelqu'un qui est beau, à quoi ça va lui servir? Il va déjà trouver à quoi ça lui servir. Ça peut servir à énormément de choses, mais pas à satisfaire l'autre. Pas à ce que l'autre me l'achète. À quoi ça peut servir? C'est à moi d'imaginer à quoi ça peut servir. On ne peut pas donner un sens à chaque chose, et je ne peux pas, moi, donner un sens à ce que l'autre a. Mais une chose est sûre, c'est que si ça lui ouvre des possibilités qu'il se refusait à avoir, c'est que ce n'est pas sa vie à lui, c'est la vie des autres. Et là, il n'est pas obligé de donner matière aux autres. Si moi, je pratique sur moi-même une mutilation parce que l'autre le trouve beau, ça veut dire que ce n'est pas ma vie à moi. Moi, je dois pouvoir vivre dans le cadre qui m'a été donné par Akadosh Baruch Hu en donnant un sens aux choses. Qu'on soit bête ou intelligent, qu'on soit moche ou qu'on soit beau. Ça veut dire que de vouloir la vie des autres, c'est un non-sens. Maintenant, est-ce qu'il peut arriver un moment où Bémet, on pense que la vie n'a plus de sens? Ici, c'est parce que justement la vie a été assez remplie et qu'on a peur que ce qui reste ne va pas être plus rempli. Comprenez? Il existe un exemple. Moi, je n'en connais pas beaucoup, mais il existe un exemple. C'est une Gemara dans le traité de Nedarim, où la Gemara dit que quelqu'un qui souffrirait énormément, on aurait le droit de prier pour que ses souffrances s'arrêtent, même au prix de ce que sa vie s'arrête. Ça, c'est marqué dans la Gemara de Nedarim. Alors là, il faut essayer de comprendre, il faut voir jusqu'où ça va. C'est pas simple. Ça veut dire que quelquefois, on ne trouve plus dans la vie qu'on a un sens. Donner un deuxième exemple. L'exemple, il est dans le Midrash, dans la Parasha Toldot, sur le verset « Vayarech et Reach Begadav ». Il est marqué « Reach Begadav lo Nemar et la Reach Bogdav ». Le Midrash parle de Yakum Ishtzorot, c'est un homme qui avait fait tellement de mal dans sa vie qu'il s'est suicidé, c'est-à-dire que lui-même, il s'est fait les quatre mitzvot de Bedin. Ça veut dire qu'il y a un moment où il pense que ça doit s'arrêter. Parce qu'il ne voit plus comment il va pouvoir changer certaines choses. Ça, c'est des choses très personnelles. Mais ça peut exister théoriquement. Mais pas dans le sens de ce qu'on a dit de Socrate. Pourquoi? Parce que la vie, de toute façon, ne vaut rien. Non. Parce qu'elle vaut tellement que de la vivre comme ça, ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire que c'est possible qu'on puisse arriver à une telle conclusion, mais ça vient exactement de la svara, c'est-à-dire de l'idée contraire. Donc là, il faut être très clair.
On remercie le Rav Emma. Shabbat Shalom.